Vous êtes branché sur VO Afrique, il est 19h en temps universel. Bonsoir et bienvenue à l'écoute de ce bulletin en ce dimanche 24 mai 2020. Jacques Aristide avec vous. Au Burundi, la commission électorale indique qu'elle proclamera demain après-midi les résultats de l'élection présidentielle. Le candidat du parti au pouvoir, Evariste Ndayishimiye, est largement en tête d'après les résultats partiels. Son rival de l'opposition, Agathon Rwasa, les a déjà qualifiés de fantaisistes. Les résultats provisoires seront également annoncés demain pour les législatives et communales qui ont eu lieu, comme la présidentielle, le 20 mai dernier en pleine pandémie de Covid-19. Les chiffres définitifs seront rendus publics le 4 juin prochain. Le chef de l'État sortant, Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, ne s'est pas représenté pour un quatrième mandat. En République démocratique du Congo, 9 civils, dont 2 femmes, ont été tués en territoire de Beni aujourd'hui. Une nouvelle tuerie attribuée au groupe armé ADF, les forces démocratiques alliées. 8 djihadistes présumés ont été tués. 38 suspects interpellés au cours de l'opération conjointe entre l'armée burkinabé et ivoirienne à la frontière des deux pays ces derniers jours. C'est ce qu'indique l'armée ivoirienne aujourd'hui. Elle ajoute que la base terroriste d'Alidougou au Burkina a été détruite. Des armes, munitions, clés USB, téléphones portables ont également été saisies au cours de l'opération Komoé, du nom du fleuve qui traverse les deux pays. Blessé, un soldat burkinabé a été hospitalisé à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. L'armée ivoirienne souligne que la zone est sous contrôle et évoque la satisfaction des deux états-majors et les excellents résultats obtenus grâce à la parfaite coordination entre les deux armées, dit-elle. Également dans l'actualité, le président burkinabé juge inacceptable la mort suspecte de 12 personnes détenues dans une gendarmerie dans l'est du pays. Rochmar Christian Kabore a promis hier des décisions sans état d'âme après des enquêtes d'après des proches et des ONG. Les 12 personnes qui étaient détenues à la gendarmerie de Tanwal-Bougou pour suspicion de faits de terrorisme étaient en fait des civils pris dans une rafle et ils ont été exécutés sommairement d'une balle dans la tête. Toujours d'après les proches et les ONG, les 12 personnes tuées étaient toutes de l'ethnie Peul. Le président Kabore a appelé à éviter la stigmatisation et le repli identitaire. En Somalie, au moins 5 personnes ont été tuées et 20 blessées, dont des femmes et des enfants, par une explosion ce dimanche à Païdoa, environ 250 km au nord-ouest de Mogadiscio, pendant les festivités de l'Aïd el-Fitr. Certains des blessés sont grièvement touchés. Coronavirus en Afrique, au Cameroun, 3 bénévoles d'une association lancée par Maurice Kamto, le principal opposant au président Paul Biya, ont été arrêtés à Sangmélima, dans le sud du pays, pendant qu'il distribuait des masques et du gel hydroalcoolique. En Afrique du Sud, l'interdiction controversée de la vente d'alcool décrétée au début du confinement sera levée dès le 1er juin pour la consommation à domicile. Annonce ce dimanche du président Cyril Ramaphosa qui ajoute que la vente de tabac restera interdite en raison des risques sanitaires liés au tabagisme, dit-il. Les 57 millions de Sud-Africains vivent depuis le 27 mars dernier sous un confinement strict destiné à contenir la pandémie qui à ce jour a infecté au moins 22 583 personnes et en a tué 429 dans le pays. Quelques 400 migrants, probablement tous des Tunisiens, ont été débarqués illégalement ce dimanche sur une plage de Sicile en Italie. Les migrants auraient été laissés par un bateau à quelques mètres de la plage avant que cette embarcation non identifiée ne reprenne le large. Des recherches sont en cours pour retrouver le navire, notamment avec des bateaux des gardes-côtes. 52 autres personnes, majoritairement originaires d'Afrique subsaharienne, sont parvenus ce même dimanche sur la petite île de Linosa, non loin de Lampedusa. Elle se trouvait à bord d'une embarcation de 10 mètres. D'après Rome, 4445 migrants sont arrivés en Italie depuis le début de l'année. Et puis la Chine accuse le président américain Donald Trump de l'entraîner dans une nouvelle guerre froide dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Les premiers malades du Covid-19 ont été signalés en décembre dernier dans la ville chinoise de Wuhan. Le président Trump reproche à Pékin d'avoir tardé à communiquer des données cruciales sur la dangerosité du virus, mais aussi de ne pas vouloir faire la lumière sur son origine. Washington presse pour l'ouverture d'une enquête internationale. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure.
vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à tous dans ce dialogue des religions pour aborder une question essentielle si vous êtes croyant, animiste ou athée, l'effet du nouveau coronavirus sur votre foi. Le monde traverse une crise sanitaire sans précédent depuis quelques mois. Le Covid-19 qui fait son apparition en Chine en décembre s'est propagé partout dans le monde, obligeant les pays à tout fermer et aux populations de se confiner. Cette pandémie a fait plus de 320 000 morts dans le monde et au moins 4 820 000 cas d'infection officiellement diagnostiqués. Alors que rôde le spectre d'une deuxième vague, la peur de la mort perturbe la vie quotidienne dans les quatre coins du globe. La vie pendant le confinement en temps de coronavirus a peut-être changé votre foi. Nous en parlons dans quelques instants avec nos deux invités. Lionel Ndoundanila Gahima assure la mise en onde. Eric Manilakiza en votre compagnie. En ligne depuis la Suisse, Madame Karine Emo, une nouvelle voix dans le dialogue des religions. Un plaisir de vous recevoir.
Bonsoir.
Bonsoir Eric, merci pour votre invitation.
Vous êtes chrétienne, n'est-ce pas?
Oui, je suis chrétienne.
Notre deuxième invité, l'abbé Steve Mike, de la paroisse de Pontoise, diocèse du Val d'Oise en France. Bonsoir mon père.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique.
Et nous avons votre bénédiction, n'est-ce pas?
Vous savez, la bénédiction de Dieu, en l'occurrence chaque jour, mais effectivement, si vous voulez.
Voilà, vous êtes toujours confiné ou vous avez défié le confinement? Un serviteur de Dieu ne devrait pas avoir peur.
Alors, je vous répondrai en citant un évêque qui disait dimanche dernier que Dieu ni la foi ne peuvent être confinés. Seuls nous, les humains, le sommes. Et donc nous, on est plutôt en déconfinement progressif. Petit à petit, prudemment et sagement, on essaie de revivre plus ou moins selon les consignes, bien entendu.
Madame Karine, vous êtes aussi en confinement.
Oui, ça, c'est plutôt un déconfinement progressif. Et ça se met gentiment en route. Voilà.
Nous l'avons vu, nous l'avons vécu, tout a fermé, les églises, etc. Mais il y en a qui ont tenté de défier le virus. Sommes-nous immunisés contre le virus à cause de notre foi, Madame Karine?
Je ne dirais pas que nous sommes immunisés contre le virus à cause de notre foi, mais par contre, notre foi nous aide à bien vivre cette pandémie et peut-être aussi à bien la supporter si par malheur nous sommes atteints dans notre corps. Et voilà, et donc par la grâce de Dieu, on peut le traverser d'une manière plutôt avec le Seigneur. Et puis s'il nous fait grâce, nous restons en vie. Et si c'est l'heure qui a sonné, voilà. Mais nous ne sommes pas autrement immunisés. Mais le Seigneur peut aussi nous préserver. Je le crois qu'on peut ne pas l'attraper parce qu'il nous donne la santé. Mais il n'y a pas d'immunité parce qu'on est chrétien. C'est mon point de vue.
Et votre foi n'a pas changé pour autant?
Ah non, ma foi n'a pas du tout changé. Ce fut plutôt un moment où, de remise en question et plutôt d'affermissement parce qu'on a eu le temps de voir comment tout s'arrête autour de nous, comment tout s'arrête dans notre propre vie et ça nous fait nous poser des questions sur quoi notre foi est basée et aussi ce fut un moment plutôt d'intimité et de recherche plus de la face de Dieu.
Abbé Steve, qu'on soit un fervent croyant ou un serviteur de Dieu, riche ou puissant, personne n'est surhumain, c'est ce que nous avons vu. Faut-il considérer la mort comme une réalité possible, malgré son confort?
Alors, comme le disait Karine il y a quelques instants, c'est que ce temps de confinement, ce temps de pandémie, constitue pour les croyants en général, pour les chrétiens en particulier, un temps de remise en question. Moi, j'appelle ça un temps d'introspection. On se rend compte que la vie ne tient qu'à un fil. Tout ce dont on était sûr, tout ce dont on était habitué, c'est-à-dire le travail, la consommation, les vacances, les voyages, tout cela s'arrête et ça vous fait poser des questions plutôt existentielles. C'est là où la foi va vous aider. Parce que chez les chrétiens, la foi vous donne des raisons d'espérer contre toute espérance. Et c'est là où la présence de Dieu dans l'intimité, dans l'épreuve, dans la difficulté, vient vous aider à l'affronter et à la surmonter. Alors pour revenir à votre question, la mort, tout dépend de la manière dont on considère la mort. C'est-à-dire que dans le christianisme, la mort c'est l'entrée dans la vie. D'ailleurs, il y a un psaume qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai » pour annoncer les bontés du Seigneur. Nous n'échappons pas à la mort, c'est le lot commun de tous les individus. Mais le plus important, c'est de se dire comment est-ce que je vis cette vie et surtout la vie d'après. Et c'est là où la foi, la religion, la relation avec le Seigneur, l'ancrage, l'enracinement dans une vie intime avec Dieu peut vous aider à non pas supporter la mort, mais l'accueillir et elle fait partie de la vie, mais elle est une transition pour la vie éternelle, en tout cas dans le christianisme. Voilà.
Et quel est le rôle de l'Église dans tout cela?
Le rôle de l'Église, c'est d'accompagner les croyants, c'est d'accompagner les chrétiens, c'est de leur dire d'abord tout n'est pas perdu, puisque le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est celui qui marche dans le feu avec nous. Première chose. Deuxièmement, c'est d'appeler également, d'inciter les chrétiens, les croyants, que ce soit des religions différentes, à être responsables. C'est-à-dire que, comme le disait Karine, on n'est pas immunisé, on a la foi, et donc la foi s'accompagne d'une certaine forme de liberté et de responsabilité. Liberté intérieure, mais responsabilité sociale. Et on l'a vu dans nos différents pays, les religions étaient mises à grande contribution. D'ailleurs, leur contribution a été reconnue comme étant des institutions qui ont permis de pacifier leurs membres et de leur indiquer des comportements plus ou moins responsables. Et si j'en crois ce que nous voyons et ce que nous entendons, ça s'est plutôt bien passé mondialement au niveau des croyants.
Oui, Karine, la Bessie vient de dire que la vie peut s'éteindre à tout moment, on le sait. Votre foi n'a pas changé, mais il y en a d'autres, sans doute, qui se sont rapprochés davantage à Dieu.
Absolument, ce temps a fait que les gens, certains, sont posés des questions existentielles en se disant où est-ce que je vais, qu'est-ce qui m'attend, comment est-ce que toutes les choses, et avaient besoin de réponses. Et aujourd'hui, je crois que, en tout cas de mon point de vue, il n'y a que l'Église qui peut apporter une réponse qui fait sens, une réponse qui peut apaiser les cœurs de manière sereine en se battant sur la parole. Personnellement, durant ces temps, ce qui m'a fait demeurer dans la foi et m'attacher, c'est que je voulais citer Romains 8, verset 35, qui dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Et cette parole m'a permis de me dire que malgré tout ce qui se passe, parce que c'est la première fois, et je crois pour beaucoup de gens, que tout s'arrête comme ça du jour au lendemain, de voir des gens qui se posent des questions, et de me dire « Seigneur, rien ne me séparera de toi ». Ça m'a permis de plus m'attacher, de me dire « Voilà, Jésus peut répondre à mes questions par le Saint-Esprit, j'ai ma foi, je peux encourager les autres avec la foi que j'ai ». Et comme l'avait précisé le Père Steve, beaucoup de gens qui ne sont pas dans la foi se posent des questions et viennent vers les chrétiens ou autres endroits où ils peuvent trouver des réponses pour être encouragés, édifiés, trouver des réponses à leurs questions.
Donc nous comprenons que le Sauveur, il est là.
Absolument. Je répète encore, comme le disait le Père Steve, il a dit « Nous sommes confinés, mais Dieu n'est pas confiné ». Et en fait, même si nous ne pouvons pas nous rendre dans les églises, nous, parce que nous croyons que le Saint-Esprit vit en nous et nous accompagne tous les jours, et cela nous permet de tenir, d'aller de l'avant, parce que Dieu n'est pas entre les quatre murs, il vit en nous. Bien sûr, nous réunir est une recommandation du Seigneur, avoir des frères et des sœurs en Christ, avoir des conducteurs comme le Père Steve, c'est une grâce du Seigneur, mais il nous enseigne d'avoir cette conscience qu'il vit en nous. Voilà.
Et si vous permettez, Eric, pour rejoindre tout à fait ce que dit Karine, c'est que cette crise est aussi une crise existentielle. Elle pose de réelles questions anthropologiques, puisque quand on voit que tout s'arrête, que la vie, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit affective, qu'elle soit professionnelle, tout semble s'arrêter, et qu'on se dit qu'elle ne suffit pas pour répondre aux questions de sens que nous pouvons nous poser, ben naturellement, on se tourne vers la religion, vers la transcendance, vers quelque chose qui nous dépasse. Et on a vu, moi j'ai vu réellement, parce qu'on a gardé les églises et les lieux de culte, les églises en général ouvertes et les personnes pouvaient venir se recueillir individuellement, des gens qui ne mettaient jamais les pieds à l'église ou qui n'étaient pas spécialement croyants, venir trouver un havre de paix, de ressourcement et poser des questions de sens. Et je crois qu'on aura beaucoup de retours d'effets spirituels à l'issue de cette crise.
Vous écoutez le dialogue des religions sur VOA Afrique. Gardez l'écoute. Nous revenons dans quelques instants après cette courte pause. Eric Manilakis avec vous pour discuter de l'effet du nouveau coronavirus sur votre foi. Certains auditeurs ont exprimé leur point de vue sur notre page Facebook. C'est l'État Ngongo. Ils disent aussi, je sais que Dieu nous aime, c'est lui l'éternel qui guérit toutes les maladies, mais comment expliquer que toutes les églises ferment? Ceci montre que nos autorités n'ont pas la foi. Et il cite Marc verset 11 jusqu'à 20, il cite aussi Jean 14 et 12. Cherchons la cause de la maladie, c'est le péché. Alors pour tuer le péché, il nous faut le Saint-Esprit qui est le véritable vaccin. Acceptons Jésus-Christ comme le seul sauveur, ouvrons nos églises et implorons la grâce et la miséricorde de Dieu. Alors, Dieu fera quelque chose pour son peuple. Du reste, que Dieu vous bénisse. Youssouf Ouedraogo dit, ma foi demeure intacte, mais de grosses interrogations demeurent aussi. Thomas Sankara est à Dakar, chez moi au Sénégal. Les guides religieux sont divisés sur les mesures prises par l'autorité étatique depuis le début de la pandémie de coronavirus. Les uns ferment les mosquées et les autres ne le font pas. Père Steve, un commentaire sur les auditeurs.
Il est tout à fait normal dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il y a eu des tragédies ou des catastrophes et des cataclysmes qu'on ne peut pas expliquer, de remettre en cause les pratiques et les aspirations de la foi. Mais je crois que nos auditeurs devraient distinguer deux choses qui semblent être unies mais qui sont un petit peu différentes. C'est la foi et les pratiques de la foi. La foi est une adhésion, pour le christianisme par exemple, une adhésion à la personne et à l'œuvre de Dieu manifestée en Jésus-Christ et vivifiée par le Saint-Esprit. Donc la foi devient une relation intime, personnelle, vivifiante avec le Seigneur. Tandis que les pratiques de la foi sont une conséquence de cette relation personnelle. C'est un aspect extérieur. Les pratiques de la foi, on va dans une église ou dans un lieu de culte, on a des dévotions. Ce qui a été arrêté, entre guillemets, ce qui a été momentanément suspendu, ce n'est pas la foi. C'est le fait, c'est ce qu'on appelle les mesures de distanciation sociale. Alors, ça s'appelle social justement parce que ça interrompt une série d'activités en commun. Mais ce n'est pas la foi. Ça, c'est une première remarque, une dernière remarque à donner, c'est qu'il y a une conception de la foi qui est un petit peu, qui relève de certaines pratiques, par exemple quand vous lisez dans l'Ancien Testament, on essaie d'instrumentaliser la foi, c'est-à-dire Dieu, si tu me donnes ceci, moi je te donne cela. Il n'y a pas d'automatisme dans la foi. Donc, c'est-à-dire qu'il est avec nous au cœur de notre foi et qu'il nous relève quand nous sommes beaux. Mais ce ne veut pas dire que nous n'aurons pas de difficultés. Donc, je tenais vraiment à insister sur cette distinction entre la foi et les pratiques de la foi.
Karine, une nuance à apporter sur ces propos des auditeurs ?
Oui, je voudrais réagir concernant la personne qui a parlé des églises en disant que les églises ont fermé. Est-ce qu'ils auraient peur ? Les églises sont établies dans des pays où il y a des autorités, et nous sommes soumis aux autorités de là où nous nous trouvons. Et surtout dans des cas critiques comme ceux que nous traversons, les églises n'ont pas fermé ou les chrétiens ne se rassemblent pas parce qu'ils ont peur, mais c'est parce qu'ils répondent aux règles qui ont été mises en place. Et aussi, j'inviterai peut-être ceux qui nous suivent d'aller voir dans Romains 13 et qu'ils lisent de 1 à 7, le Seigneur nous parle de l'autorité établie, l'autorité à laquelle nous sommes soumis. Et aussi, on doit agir en bon citoyen avec conscience et sachant de quelle manière la maladie se transmet, tout ce qui nous a été dit. Je pense qu'en tant que chrétien, nous avons aussi le devoir et l'obligation non seulement d'être soumis aux autorités et aux directives qui ont été données partout où nous sommes, et aussi de donner le bon exemple pour éviter la propagation, que ce soit au milieu de nous ou autour de nous.
Alphonse Mouaki dit aussi, je suis devenu mon propre pasteur à la maison parce que les églises étaient fermées, mais les individus peuvent manifester leur dévotion à domicile, en famille. Quand on porte Dieu dans son cœur, dans sa vie, rien n'empêche qu'on pratique sa foi et manifester son dévouement au Seigneur. Notre dévotion à Dieu n'est pas le produit d'un groupe ou d'une rencontre dans les églises ou dans les cathédrales. La foi individuelle manifeste le pluralisme de dévotion qu'on voit dans les cultes dominicaux et pendant la semaine. Ibrahim Kone, est du Mali, il dit « La maladie de Covid-19 a été une mauvaise chose pour les peuples du monde. J'ai peur de prier Dieu dans un lieu de culte avec les autres. » Karine, finalement, tout est une affaire de croyance.
Oui, tout est une affaire de foi. On le voit aussi, peut-être aujourd'hui on parle du Covid-19, il y a un qui dit qu'il a peur d'aller dans un lieu de culte parce qu'il a peur d'attraper la maladie. Tout comme quelqu'un peut aller par la foi si c'était ouvert, enfin les écoles reprennent, je le vois par ici, par petits groupes, petit à petit, les choses se mettent en place. Et il est arrivé qu'il y ait par exemple des élèves qui ne viennent pas parce qu'ils sont tétanisés par la peur. Donc c'est vraiment une approche personnelle de chacun.
Merci.
Je crois que c'est, je ne dirais pas mieux que ce que vient de dire Karine, c'est aussi une affaire de responsabilité individuelle et personnelle. Chacun agit suivant sa conscience. La foi nous fera faire des merveilles et des miracles et soulever les montagnes, mais en même temps, la foi nous incite, comme le disent les Écritures, à suivre selon qui ne se pose pas à la foi les consignes des autorités établies, qui sont là pour tous. Et il faut rappeler que c'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, la plupart des États dans le monde sont dits laïcs, au sens où ils doivent vraiment être là pour l'intérêt de tous. Alors les chrétiens ou les croyants, dans une large mesure, ont leur rôle à jouer. Et leur rôle, c'est, comme l'a dit Jésus dans l'Évangile, c'est d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Autrement dit, d'être le ferment dans la pâte, de montrer l'exemple et en même temps de donner des raisons d'espérer, de vivre, de marcher dans la lumière.
Vous suivez le dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique. L'effet du nouveau coronavirus sur votre foi, c'est notre sujet. Dieu est amour. Père Steve, Mike, vous recevez cet appel et vous rejoignez le sacerdoce, n'est-ce pas ? Mais certains croyants estiment que le Covid-19 est une punition envoyée par Dieu pour réexaminer notre foi.
Alors, je vais rappeler un petit épisode de l'évangile qui est assez révélateur, l'évangile selon saint Jean au chapitre 11. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Il faut sortir de cette logique que Dieu punit en envoyant des pestes et des malheurs. En tout cas, le Dieu de Jésus-Christ n'agit plus comme ça, puisque le prophète Ézéchiel lui-même dira, et c'est ça la grande révélation au niveau de l'Ancien Testament, que chacun répond de ses actes, que nous ne sommes pas punis pour la faute des pères ou de notre race ou je ne sais pas. Mais ça veut dire cette idée d'un Dieu vengeur qui est ancré dans beaucoup de religions n'est pas tout à fait le Dieu que nous a présenté Jésus-Christ, qui est le même, si vous voulez, que mais qui dit Dieu est amour, Dieu est là pour prodiguer des soins, Dieu est là pour relever le faible. Évidemment, si tu ne marches pas selon la lumière du Seigneur, tu en subiras les conséquences. Mais le plus important, ce n'est pas tellement les conséquences dans cette vie, mais dans celle d'après.
Karine, malgré le Covid-19, Dieu se soucie de nous. Y a-t-il un moyen spécial pour le comprendre davantage?
Oui, je dirais un moyen spécial. Je ne sais pas si c'est spécial, mais je crois que c'est un des moyens. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, quand on arrive à comprendre cette parole, à l'intégrer, à l'accepter, je crois, comme le disait le Père Steve, c'est vrai, il peut nous arriver certaines choses comme ce que nous traversons et même la maladie nous atteindre. Nous en sortons, nous pouvons partir, mais nous avons la vie éternelle. Et donc, moi, je dirais que c'est cela la réponse que je donnerais aux gens.
Donc, croyance crée la qualité de notre vie selon que la mort est une fin ou un passage. Cette peur de la mort nous ronge. La foi est à comprendre que la mort fait partie de la vie. Père Steve, vous l'avez dit en début de cette émission, c'est la clé pour vivre en paix.
C'est la clé pour vivre dans la sérénité. Et la sérénité, si vous voulez, une belle définition que je donne souvent, la sérénité, ce n'est pas le calme de la tempête, mais c'est le calme dans la tempête. Un peu comme quand Jésus dort dans la barque, que la barque est secouée par les flots, et que les apôtres le réveillent et qu'ils leur disent « homme de peu de foi », et qu'un seul mot, un seul regard, un seul geste suffit pour calmer la tempête. Bah, le don de la sérénité qu'apporte l'espérance de la foi, c'est justement de dire « je ne suis pas seul, Dieu est avec moi, Dieu voit tout ce qui m'arrive et il m'aime ». Moi je dis souvent aux gens, si chaque matin en vous réveillant, en ouvrant la fenêtre, vous vous disiez que Dieu, tu m'aimes encore aujourd'hui et que chaque matin tu renouvelles tes promesses, alors vous avez les moyens d'avancer dans votre vie. Alors vous pouvez bâtir quelque chose de votre vie. C'est cela le message de la foi.
Karine, c'est aussi votre message de la foi?
Oui, absolument. Je ne le lirai pas, mais je vais le citer pour que les gens aillent lire d'eux-mêmes. Ça rejoint parfaitement ce que vient de dire le Père Steve. Et le Seigneur nous dit que nous avons été plongés dans la fournaise de l'épreuve et que nous ne devrions pas en être surpris et que ce n'est pas quelque chose d'anormal. Parce que nous savons que Dieu est à nos côtés.
Il y avait encore beaucoup de choses à dire. Malheureusement, le temps imparti à notre émission vient de prendre fin. C'est donc la fin de ce dialogue des religions. Merci, Madame Karine Quémon, pour votre temps et votre contribution.
Merci, Eric, pour l'invitation. Merci aux auditeurs présents.
Merci également à vous, Abbé Steve Mike, pour votre disponibilité.
Ce fut un plaisir. Merci à tous les auditeurs aussi et à toutes les équipes de la Voix de l'Amérique.
Lionel Onamila Gahima, assurer la mise en onde à la présentation d'Éric Manilakiza. Excellente soirée à tous. Dieu vous bénisse.